Vivre FM,
podcast. Vivre FM,
Vivre FM. Jusqu'à midi,
Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
Le magazine de Vivre FM, c'est vous, aujourd'hui de 11h à 11h40. Nous parlons de l'optimisme, nous parlons du bonheur. Comment devenir optimiste? Comment apprendre à voir la vie du bon côté lorsqu'on subit des épreuves ou lorsqu'on n'en subit pas? Est-ce que c'est possible de devenir optimiste lorsqu'on ne l'a jamais été? Eh bien, nous aurons peut-être des réponses avec notre invitée Christelle Crenier qui sort Le pouvoir de l'optimisme aux éditions Idéo avec des conseils, avec des témoignages. Et puis nous avons également Antoine Chéreau, auteur de BD. Alors, heureux, c'est sa nouvelle BD sur le bonheur aux éditions Pixel Fever qui est critique sur l'injonction au bonheur qu'on retrouve actuellement dans les médias, qui est à la mode. Et on expliquera pourquoi il nous présentera certains de ses scénettes humoristiques. Ce sera donc dans quelques instants à partir de 11h10 sur Vivre FM.
Vivre FM.
Jusqu'à midi.
Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
Christelle Crenier, bonjour.
Bonjour.
Christelle, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain et vous sortez Le pouvoir de l'optimisme aux éditions Idéo. Et vous êtes accompagnée d'Antoine Chéreau. Et Antoine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dessinateur de presse depuis 30 ans, vous êtes auteur de BD et là vous sortez votre nouvel album, Alors heureux, avec un point d'interrogation, aux éditions Pixel Fever. C'est un ouvrage critique sur la recherche du bonheur.
Oui, enfin c'est simplement... En constatant le nombre d'ouvrages qui sortent, alors déjà il y a pléthore de sorties d'ouvrages en France particulièrement, mais c'est en voyant les rayons bien-être qui augmentent de plus en plus, j'allais dire presque de manière exponentielle, avec toutes les recettes possibles. Et c'est en regardant ça, je me suis dit, mais vraiment, la société n'a jamais été aussi tendue depuis quelques années, et pourtant, il y a un nombre de bouquins qui sortent. Évidemment, ils profitent de la vague. Comment s'habiller mieux? Comment manger mieux? Comment se sentir bien? Comment supporter son entreprise alors qu'on va être viré? Enfin bon, voilà, c'est autour de ça que j'ai fait des dessins et qui sont très drôles.
Évidemment, c'est très drôle, effectivement. Vous pourrez les découvrir avec Alors heureux. C'est justement, vous critiquez, mais vous pensez que c'est possible quand même, par exemple, avec Christelle Crenier, de devenir optimiste alors qu'on ne l'est pas?
Avec l'aide de certains produits, oui. Ça peut aider, je pense au Temesta, mais je pense que on peut évidemment aller mieux. Moi, je suis pas en train de dire que tous ceux qui proposent une recette sont mauvais. Mais il y en a quand même beaucoup qui profitent du vent, on va dire. Et quant au fait, on peut avoir un regard, mais je pense que ce regard, je suis pas... Le problème, c'est que je suis pas sûr qu'on l'apprenne.
Moi, je suis pas d'accord avec ça, en fait.
Allez-y.
Parce que moi, par exemple, j'ai mis 10 ans à être vraiment ce que j'appelle optimiste. C'est-à-dire à poser un regard dynamisant sur mes ressources. Être optimiste, tout dépend de la définition qu'on lui donne. C'est pas du tout porter un regard béat, être complètement bené et se dire je vais bien, tout va bien. Non, être optimiste, c'est plutôt du fitness mind. C'est-à-dire qu'on choisit en fait de regarder autour de soi ce qui est beau plutôt que ce qui est laid. Parce que c'est beaucoup plus simple de se concentrer sur ce qui est laid ou de se victimiser, de se dire ah, je suis pas capable, etc. Tandis que devenir optimiste, c'est plutôt mettre de côté ses peurs, essayer d'oser, affirmer ses différences. C'est plein de choses, c'est se déconditionner, c'est essayer de ne pas trop faire attention au regard des autres pour essayer d'avancer et d'être au mieux dans sa vie.
Et c'est quelque chose d'important pour vous, puisque vous l'expliquez dans votre livre, il y a 10 ans, vous n'étiez pas du tout optimiste, vous ne fonctionniez pas du tout comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Moi, j'ai toujours quand même été un peu optimiste, mais on va dire qu'il y a 10 ans, je ne me sentais pas comme je me sens aujourd'hui lorsqu'il m'arrive des défis ou des épreuves dans la vie. C'est-à-dire que lorsque j'arrivais au travail, je travaillais dans une grande entreprise, j'avais l'impression en fait de voir des gens dès le matin qui étaient en train de mourir à côté de la machine à café. C'est-à-dire quand on arrive, oh, ça va être horrible, j'ai une réunion, et puis derrière j'ai ci, et ça va être terrible, etc. Et le soir, je rentrais avec vraiment une espèce de chope négative sur la tête, je ne comprenais pas pourquoi. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à tous les leaders inspirants, à essayer de me tourner vers le positif. Je suis allée interviewer pas mal d'entre eux. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une autre façon de voir la vie et qu'on pouvait faire sa vie différemment et qu'au lieu de vivre à petit feu et d'avoir une vie au rabais, on pouvait avoir une vie un peu plus lumineuse.
Mais ça, ce que vous décrivez, c'est la vie en entreprise typique, non, Antoine Chéreau?
Non, mais On en a parlé un petit peu avant. Ça, on se disait, on est trop d'accord sur plein de choses. Ouais. Ça va être terrible.
Hein, au final.
Et en fait, non, c'était bien qu'on ait un petit point de désaccord. Et c'est vrai que j'ai une tendance à en rajouter trois tonneaux, mais c'est pas grave. C'est le principe même du dessin de presse, c'est pas d'un farouche optimisme. Moi, c'est vrai que je tends plutôt un miroir sur ce qui ne va pas. Et encore une fois, en entendant une majorité de salariés, mais également en écoutant les uns et les autres, je trouve que la majorité des gens ont effectivement un regard, exactement ce que vous venez de dire, hein, qui est relativement sombre, qui peuvent sembler plombants. Maintenant, c'est vrai qu'ils peuvent sans doute faire évoluer les choses, mais il y a quand même une tendance naturelle, j'allais dire, surtout dans notre pays, une tendance à vraiment, j'allais dire, donner un sens négatif à plein de choses. Se plaindre en permanence.
C'est le propre c'est des presque Français.
Un, oui, c'est un sport national. C'est un sport national. Donc c'est ça que je montre. Hein, c'est pas, et je pense que c'est pas un hasard si tout ce qui vient des États-Unis finit par arriver. Et aux États-Unis, ça fait très longtemps qu'on parle de développement personnel, qu'il y a un tas de bouquins. Ça arrive ici, mais ici, on a un public formidable. Vraiment, c'est une aubaine.
Mais est-ce que se plaindre, ça n'est pas justement relever ce qui ne va pas pour essayer de l'améliorer? Est-ce que ce n'est pas positif?
Je ne suis pas sûr.
Je ne suis pas sûr non plus. Non, je pense au contraire qu'il faudrait justement détourner son esprit de ce qui est négatif et arrêter de se plaindre et plutôt essayer de se concentrer en utilisant des outils comme la visualisation positive qu'ont utilisé en fait beaucoup de grands leaders quand on regarde un petit peu leur biographie. Ça va d'Oprah Winfrey par exemple ils sont tous passés par des épreuves, hein. À 14 ans elle a été violée, elle était très pauvre et puis aujourd'hui elle s'est devenue l'afro-américaine, l'une des afro-américaines les plus influentes. Dans tous les domaines, il y a Bono aussi, le chanteur de U2, dont la mère en fait est décédée le jour de l'enterrement de son père, donc Zlatan aussi qui zozotait, qui avait un père alcoolo, une mère débordée, enfin, et en fait ils ont tous essayé de poser ce regard dynamisant sur leurs ressources, et ils ont tous choisi l'optimisme pour avancer, et je trouve qu'on devrait s'en inspirer.
Alors l'optimisme, c'est quoi? C'est l'espoir en l'avenir, ou c'est essayer de dramatiser la situation qu'on vit, essayer de dire c'est peut-être pas si dur, mon père boit, mais peut-être que c'est pas grave.
Mais ma mère ne boit pas.
Voilà, c'est ça. Voilà, l'optimisme en fait, c'est se concentrer sur ce qu'il y a de bon en fait autour de soi et en soi. C'est apprendre à remercier. Moi, j'ai découvert le pouvoir de la gratitude, même si ça a l'air tout bête, mais c'est-à-dire essayer de remercier pour les petites choses qui nous arrivent dans la vie tous les jours. Si vous regardez bien, même si vous avez une journée pourrie, dans la journée, il y a toujours un moment où vous avez eu un truc merveilleux, mais vous êtes passé à côté parce que vous étiez complètement concentré sur le reste. Moi, pour ne pas oublier ça, j'ai appelé mon chat Merci.
C'est mignon. Et non, il vous reconnaît, il répond.
Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un bon moyen mnémotechnique pour moi. Il y a ça, il y a aussi faire attention au moment présent. Alors, on est toujours ou dans le passé ou dans l'avenir. Tout ça, c'est des petites vérités toutes simples. Mais si vraiment vous vous concentrez sur le moment présent, vous vous rendez compte qu'en fait, dans le présent, vous êtes à l'abri. Là, juste à l'instant, même s'il y a plein de choses qui risquent d'être terribles, d'arriver, qui sont difficiles, dans le moment présent, vous êtes à l'abri. Il y a aussi un truc que moi, je pratique beaucoup quand je vis des épreuves. C'est que j'ai découvert, parce que j'étais pas du tout comme ça, moi j'étais pas du tout patiente, c'est le lâcher prise. Alors, c'est-à-dire, ça vous fait rigoler, hein?
Non, pas du tout, c'est parce que j'ai fait un dessin dans l'album qui est sur le lâcher prise. On est en radio, c'est épouvantable. Mais enfin, il y a une femme qui est en train de lire un ouvrage à la fenêtre, et il y a son mari qui est accroché à la rambarde, il va se casser la gueule, et elle dit: écoute ça, chérie, il paraît que vraiment pour aller mieux, faut pratiquer le lâcher prise. Voilà, c'est pour ça que ça me faisait rire.
J'adore, voilà, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il ne faut peut-être pas lâcher le rebord de la fenêtre, mais en tout cas, il faut essayer de mettre tout en place dans sa vie pour que ça fonctionne. Hein. On fait tout comme il faut. Voilà. Et après, quand on voit qu'il n'y a rien de plus qu'on peut faire, on lâche prise, on fait un petit peu confiance dans l'univers. Et moi, je vous assure, depuis que je fais ça, parce que vraiment, je ne faisais pas du tout ça avant, j'étais complètement dans le contrôle sur tout, eh bien, je me rends compte que l'univers vous répond et qu'il vous apporte les choses de façon différente.
Non, je le confirme, vous avez l'air radieuse.
C'est vrai. Merci. Mais vous aussi, Antoine Giroux, vous avez l'air radieux. Est-ce que vous pratiquez tout ça?
Mais non, mais je veux. J'ai une tendance naturelle à tout voir en image. Donc, c'est vrai que la majorité des choses me font rire. Moi, il ne faut pas me mettre à un enterrement.
Ah,
je vais aller voir le détail. Je vais aller voir. Même quand j'ai perdu mon père, c'est vrai qu'on a eu un éclat de rire, mais c'était bon.
Mais oui, vous êtes optimiste.
Optimiste, je savais qu'il ne reviendrait pas, c'est sûr. Mais le seul truc, c'est qu'évidemment, j'ai tendance à voir le truc qui dépasse. Quoi. Et ça me fait rire, quoi. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est une vision, hein. C'est une espèce de... C'est mon système de fonctionnement. Je ne sais pas comment c'est, mais c'est comme ça. Ça fonctionne comme ça.
Mais ça, c'est un point positif aussi. Je dirais que ça aussi, ça fait partie de l'optimisme. C'est-à-dire apprendre à sortir de sa case, à voir les différences chez les autres et à les accepter et puis à mettre en avant ses propres différences.
Ouais. Et pourtant, je ne suis pas marrant tous les jours.
Qui est marrant tous les jours? Je ne sais pas.
Demandez à mon épouse. Je peux être très, très triste, comme ça. Très, non pas triste, mais retiré, j'allais dire. Voilà.
Mais est-ce que vous êtes heureux?
Heureux. Enfin, j'ai pas l'impression d'être malheureux, mais heureux. Enfin, pour moi, heureux, c'est des moments fugaces, c'est des moments exceptionnels, c'est des moments. Ça passe très vite. Y a un dessin dans l'album qui dit ça. J'aimerais passer de petits moments très courts de bonheur à des instants un petit peu plus longs. Parce que c'est ça, en fait. Non, je peux pas dire que je sois heureux toute la journée. Non. Non. On parlait tout à l'heure de regard béat. Non. Non. J'y arrive pas.
Moi, je pense qu'une des façons aussi d'être heureux un petit peu plus souvent ou un petit peu plus longtemps, c'est d'arrêter de mettre trop d'importance sur les choses. C'est-à-dire que, qu'il nous arrive des choses formidables ou alors des choses complètement nulles, essayer de les vivre de façon un peu plus zen et de les prendre sans que ce soit, ça parte à chaque fois dans tous les sens, d'un côté trop passionnel ou voilà.
Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans votre livre. On retrouve beaucoup de conseils dans votre livre. Est-ce qu'il y en a un qui sort du livre? Vous parlez beaucoup de visualisation, c'est ça?
Oui.
C'est celui qui est le plus important selon vous?
La visualisation positive est extrêmement importante. Après, il y a plein d'autres choses. Par exemple, il faut apprendre aussi à reconnaître les signes. Si vous êtes un petit peu attentif dans la vie, vous vous rendrez compte qu'au final, la vie est un jeu. C'est-à-dire que chaque jour, il nous arrive des choses. Et par exemple, vous êtes au restaurant, vous êtes en train de penser à autre chose avec d'autres personnes, et tout à coup, à la table à côté, la personne d'à côté va dire une phrase. Alors, vous y faites attention, vous y faites pas attention. Mais si vous y faites attention, vous allez voir que probablement cette phrase va répondre à une question que vous vous posez en ce moment. Donc, quand je dis des signes, ils sont un petit peu partout. Ça peut être sur une affiche dans la rue, ça peut être un coup de téléphone. Et je ne sais pas si vous êtes aperçu, mais moi, je trouve que la vie est un puzzle. C'est-à-dire que parfois, vous rencontrez des gens, vous pensez qu'ils sont pas grand-chose dans votre vie à un moment T, on va dire. Et tout à coup, 10 ans après, ils deviennent centraux. Voilà, donc c'est juste essayer de faire un peu plus attention à tout ce qui nous entoure.
Être positif. Et nous avons le témoignage au téléphone d'Alexis. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Alexis, vous êtes divorcé depuis 4 ans, père de 2 enfants, dont l'un a été placé en famille d'accueil. Votre deuxième enfant est sur le point de rater sa scolarité. Le combat est très dur pour vous, car votre ex-épouse vous a créé beaucoup de problèmes. Elle vous empêchait de voir vos enfants. Et seul face à ces épreuves, vous avez su garder beaucoup d'espoir en vous, beaucoup d'optimisme, et vous avez réussi à récupérer vos enfants. Aujourd'hui, vous êtes optimiste, vous avez toujours été optimiste. Quelles sont les recettes pour rester optimiste dans toutes les circonstances, même lorsqu'elles sont très dures, Alexis?
Moi, c'est très simple. Moi, c'est d'abord la famille qui est là, qui m'entoure, qui m'aide beaucoup, les amis aussi, et beaucoup de spiritualité, je pense. Parce que sans spiritualité, je pense que ma vie aurait été beaucoup plus chaotique. Mais justement, grâce à mes enfants, le regard de mes enfants, je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants, tout ça fait de moi une sorte de responsable et je n'ai pas le droit de manquer à mes responsabilités, justement.
Alors, par exemple, lorsque vous alliez à l'école de vos enfants pour les apercevoir, puisque vous ne pouviez plus les rencontrer, qu'est-ce que vous vous disiez pour rester optimiste, pour ne pas craquer?
Je me disais que mes enfants, j'ai eu la chance, dans mon malheur, en fait, de rester avec eux jusqu'à le plus grand, peut-être 8 ans, et le plus jeune, 5 ans. Donc, ils ont pris le temps de me connaître un petit peu quand même. Donc, on a quand même tissé des liens. Et je me dis souvent que ces liens ne peuvent pas finir comme ça d'un coup de traînant, c'est pas possible. Donc du coup, confiant de ça, je me suis dit, en travaillant un peu sur moi-même et puis sur, j'ai envie de dire, les forces des choses de la nature, c'est-à-dire toutes les difficultés que j'ai pu avoir avec mon ex-femme, sa famille, et notamment le système judiciaire, etc. Parce que eux ils m'ont rendu la vie un petit peu compliquée, parce que hélas, on a tendance à, dans ce genre de situation, à privilégier la femme, quoi qu'il arrive, à tort d'ailleurs. Et j'ai eu le temps de le prouver ça plusieurs fois, et le placement, notamment qu'a subi mon plus jeune, a été une vraie catastrophe. J'ai dit à madame la juge, qui croyait dur comme fer, que ce serait lui rendre service. Oh, il est revenu de là-bas pire que quand il est rentré. Aujourd'hui, les petits se redressent, et comme je dis, autour de moi, il y a ma famille, il y a mes amis, il y a la spiritualité, la foi au fond de moi qui fait que j'y crois toujours. Je me dis, non, je ne dois pas baisser les bras, et les résultats me donnent plutôt raison.
Et même lorsque vous voyez que vous n'obtiendrez pas gain de cause, vous arrivez à rester positif ?
Absolument, parce que si jamais on commence à s'affaiblir, à baisser les bras, là c'est sûr on ne va pas y arriver. Moi j'ai un souci, entre parenthèses, je suis né, j'ai une maladie génétique, je suis atteint d'albinisme en fait, donc je suis malvoyant. Et depuis tout petit, on m'a toujours dit, voilà, ok tu es malvoyant, ok tu as des difficultés, mais ne mets pas des barrières. Va, fais comme tout le monde, contourne les difficultés, écrase la limite si tu le peux, surtout ne dis pas je suis handicapé donc je peux rien faire. Et justement, fort de cet enseignement, j'arrive à confronter tous les difficultés que j'ai dans la vie, tous les problèmes qui font face à moi de cette façon. C'est-à-dire que je me dis non, c'est difficile, c'est compliqué, ma vie elle est vraiment, j'aurais pu flancher à un moment donné, mais encore une fois j'ai du soutien de ma famille, de mes amis, et comme je vous dis, je suis extrêmement croyant et je fais confiance à mes enfants en fait, je fais confiance à la vérité. Moi je crois à la vérité, je me dis la vérité à un moment donné elle va finir par sortir et les choses vont s'arranger par elles-mêmes. Et au jour d'aujourd'hui elles sont en train de s'arranger, c'est pas encore fait. Parce que bon, il y a eu beaucoup de coups de prix, beaucoup de coups de poignard, et c'est pas facile de guérir de ce genre de blessure. Mais il faut toujours garder espoir.
Il y a des petites phrases comme ça que vous vous dites pour vous encourager.
Oui, tout à fait. Oui, je me dis, mais de toute façon, si regarde-toi, tu es handicapé, tu as réussi à t'en sortir, tu fais de bonnes études, etc. Tu as une bonne éducation de la part de tes parents, et ben tu peux faire la même chose. En fait, tu as bravé les difficultés, tu t'en es sorti à titre personnel. Ben là, tu as une autre difficulté en plus, ça inclut tes enfants, donc c'est pas simple. Et ben, bats-toi de la même façon et tu t'en sortiras également.
Et qu'est-ce que vous dites à vos enfants qui ont aussi des difficultés ?
Ben, je vais prendre mon propre exemple. Je vois le plus grand, par exemple, qui est en train de rater sa scolarité alors que le petit, c'est un génie. Pour la petite histoire, ça fait que 2 mois que l'école a commencé, il m'a sorti 30 absences quand même. 30 absences,
ah oui.
Parce que pour l'instant, je l'ai une moitié du temps, mais tant qu'il est avec sa mère, il ne va pas à l'école, tout simplement. Je leur ai dit, les garçons, regardez-moi, je suis malvoyant, j'aurais pu rater mes études au maximum, mais non, j'ai bac plus 4, bac plus 5, c'est pas n'importe quoi. Il y a beaucoup d'autres gens qui ont une meilleure vue que moi, qui n'ont pas réussi. Donc, malgré le handicap, on peut s'en sortir. Donc, je leur ai dit, prenez exemple sur moi. Je suis votre père, je suis l'exemple le plus direct que vous puissiez avoir. On peut s'en sortir, d'autant plus que vous êtes intelligent. Vous avez certes des soucis, c'est vrai, qui sont assez importants, c'est vrai. Mais on peut les dominer, les soucis. Il suffit de travailler, on s'en sort.
Très bien. Mais merci Alexis de votre beau témoignage, très encourageant. Puis on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci Alexis.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir. Christelle, vous avez entendu ce témoignage,
oui.
Alexis, donc il n'a pas de technique particulière, mais il reste positif en toutes circonstances.
Malgré lui, en fait, il a des techniques particulières dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, premièrement, accepter ses différences. Deuxièmement, l'optimisme, c'est aussi une certaine forme d'humanisme, c'est une envie d'être utile aux autres comme à soi-même. Et c'est aussi se rendre compte qu'on est tous connectés. Donc c'est ce qu'il dit, que lui, il est entouré de sa famille, de ses amis, et que c'est ça aussi qu'il a à tenir. Et l'optimisme, c'est aussi se rendre compte qu'en fait, il y a un effet boomerang dans la vie. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup quand même, que même si ça paraît un peu simpliste, que ce qu'on fait en fait aujourd'hui conditionne notre vie plus tard. C'est-à-dire, même si on s'en rend pas compte là tout de suite, si vous faites quelque chose de bien, vous verrez, des années plus tard, ça vous reviendra de façon positive.
Là, vous parlez de karma, c'est ça ? C'est spirituel, c'est...
c'est pas forcément une histoire de karma, c'est juste une histoire d'humanisme, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que les gens avec lesquels on fait des choses positives, on les fait pas pour ça, hein, mais s'en souviennent toujours. Moi, la première, je me rappelle toujours quand on me fait quelque chose de positif.
Antoine Chéreau, vous partagez?
Non, mais pour... Bien sûr, pour un certain nombre de choses, bien sûr. Et puis, moi, j'ai tendance à mémoriser surtout ce qui s'est passé de bien.
Oui.
Ah, mais oui.
Quand je pense à mon enfance, qui n'était pas terrible, mais franchement, je me rappelle surtout des bonnes choses. Et contrairement à mon frère. Donc, vous voyez, c'est vraiment des choses... on a vécu la même chose. On avait 13 mois de différence. Et les souvenirs qu'il en a n'ont rien à voir avec ce que j'en ai.
Il a gardé tout le mauvais, vous avez gardé
et
tout
voilà,
le bon.
Voilà, ça, et ça plombe. Mais par contre, non, sur le cas d'Alexis, je crois.
Alexis,
moi, ce qui m'a frappé, il a dit deux choses. Il a dit d'abord, avec son handicap, ses parents ont été encourageants. Ça veut dire que très clairement, il était dans un milieu qui poussait vers le devant, qui n'était pas en train de regarder la pauvre petite chose qui avait un problème. Ça, c'est déjà énorme. Deuxième chose, il a dit, hein, une chose importante aussi, c'est qu'il est croyant. Bon, moi, je ne suis pas croyant, donc ça ne me concerne pas. En revanche, j'ai rencontré suffisamment de gens qui croient. Et très clairement, c'est une béquille formidable pour eux. Je n'ai pas un jugement que je porte là-dessus. J'ai vu même des gens perdre leurs enfants. Et il y avait une forme de... Ils n'avaient pas la réaction de quelqu'un qui ne croit pas. C'est vraiment la chose la plus sinistre qui puisse arriver. Donc, il y avait quelque chose qui les aidait. Donc, je pense qu'Alexis, effectivement, il a plusieurs choses, mais qui viennent déjà de son enfance, où il a déjà été sans doute porté, entouré. Et ça me semble quand même le béaba de... pour qu'une humanité réagisse plutôt mieux à ce qui lui arrive, et ça va lui arriver. Je pense que l'éducation, la manière dont on montre les choses, a un impact énorme.
Ah oui, ça c'est ultra important. Il y en a beaucoup qui
non, vont devoir de derrière. Là, j'arrête de pontifier.
Il y en a beaucoup qui vont derrière devoir se déconditionner en fait de ce que leur a apporté leur entourage en fait au départ. Et puis il y en a d'autres qui ont eu cette chance d'avoir. C'est ce que me disait Thomas Dutronc quand je l'avais interviewé. Il m'avait dit que ses parents lui disaient toujours fais ce que tu veux mais fais le bien. J'ai trouvé que c'était génial parce qu'en fait c'est tout simple et c'est juste ça donne des ailes quoi. On se sent autorisé à faire les choses.
Et oui, forcément. Oui. Alors, on va continuer à parler d'optimisme, comment être heureux, comment rester optimiste avec nos deux invités. Mais pour l'heure, il est 11h30.
Vivre FM,
podcast.
Et nous parlons de l'optimisme, comment devenir optimiste, comment apprendre à voir la vie du bon côté, comment être heureux, peut-on être heureux facilement ? Avec nos deux invités, Antoine Chéreau, auteur de Alors Heureux, la BD avec des scénettes satiriques sur la recherche effrénée du bien-être. Et puis avec Christelle Crenier, auteur du Pouvoir de l'optimisme aux éditions Idéo. Christelle qui nous expliquait, et puis vous aussi Antoine Chéreau, vous nous expliquiez que c'est plus facile d'être heureux, d'être optimiste. Lorsque dès l'enfance on a appris à l'être, on a su voir les choses du bon côté. Alors lorsque dès l'enfance on est pessimiste, on voit tout du mauvais côté, comment fait-on pour devenir optimiste? Est-ce que c'est possible?
Antoine,
comment on fait pour devenir optimiste? En fait, je crois juste qu'il faut apprendre à faire le tri dans ses pensées et dans ses émotions. Apprendre à faire le tri dans ses croyances, parce que on a tous des croyances qui nous sont souvent inculquées par les autres, mais on se rend pas compte que ce sont les autres qui nous les ont mises dans la tête. Donc il faut essayer de se reparamétrer. Alors on se rend pas forcément compte rapidement hein, de tout ça, hein, parce que moi par exemple, c'est seulement à 40 ans que je me suis rendu compte que je vivais pas forcément la vie que j'avais choisie moi, mais plutôt celle qu'on m'avait dit de choisir. Ça c'était de façon totalement inconsciente. C'est important en fait aussi de faire le tri dans ses peurs. Moi par exemple j'avais plein de peurs, j'avais peur de réussir, peur de ne pas réussir aussi d'ailleurs, c'était dans les deux sens à chaque fois, peur d'être différente, peur de ne pas être assez différente, j'avais peur du regard des autres. Et en fait aujourd'hui ce qui se passe c'est que j'ai toujours peur mais que je fais les choses, que je me dis, je ferme les yeux puis je me dis allez hop j'y vais, je fonce. Donc je pense qu'on peut devenir optimiste en faisant tout ce travail comme ça sur soi-même.
Mmh. Et vous Antoine, vous pensez qu'on peut aussi changer comme ça radicalement de tas d'esprit?
Déjà, c'est pas radical, hein. Pardon Antoine.
Non, pour reprendre les propos de Christelle, ce qui m'intéresse dans ce qu'a dit Christelle, c'est les contradictions. Et c'est précisément le fond de l'humain, c'est les contradictions. Et tout ça est assez évidemment juste. En revanche, oui, je suis totalement d'accord avec vous. En tout cas, vous avez évité soigneusement de parler du terme parent, mais c'est vrai qu'un gamin va absorber comme vérité première tout ce qui va être émis par les parents. Et c'est tout le problème. Donc ensuite, on met un certain temps à s'en dégager parce qu'évidemment, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'âneries qui sont dites ou des choses complètement fausses. En tout cas, que leur fonctionnement cervical, j'allais dire, et leur fonctionnement émotionnel n'est pas forcément une vérité. Donc, moi, je m'en suis dégagé plus rapidement.
Non, mais c'est vrai.
Je m'en suis dégagé plus rapidement parce que j'ai, peut-être parce que j'ai eu ce regard-là, les contradictions, elles sont montées très vite, très vite. Et on voit bien qu'il faut les descendre vite fait du piédestal pour commencer à exister. Ça me semble important. Ça ne m'a pas empêché de faire un paquet d'âneries. Christelle, entendons-nous bien. J'ai foncé dans n'importe quoi aussi. Mais bon, en tout cas, après, bon, c'est avec l'expérience qu'on se dit... au moins, on découvre ce qu'on n'aime pas. C'est déjà pas mal. On ne sait pas forcément ce qu'on aime, mais on sait ce qu'on n'aime pas. Ce qui est sûr, c'est qu'après, oui, on peut progresser, d'avoir un recul par rapport à tout ça et de remettre les gens à leur place. Et puis surtout, un truc qui me semble vachement évident, mais qui n'est pas évident pour tout le monde, c'est de fuir les toxiques.
Ah oui.
Et quand je dis les toxiques, c'est...
Entièrement d'accord.
On a autour de nous, on rencontre, pas systématiquement, mais des gens parfaitement toxiques. Il y a quand même très clairement des gens qui ont une bienveillance naturelle, qui ont, j'allais dire, comme disait Jaoui et Bakri, le goût des autres. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et il y a des gens qui sont toxiques. C'est-à-dire que de toute façon, quoi que vous fassiez, ils vont vous pourrir la vie.
On en connaît tous.
Mais bien sûr. Pour moi, c'est ceux à fuir en premier. Et quand on a des enfants, les élever dans reconnaître assez rapidement ceux qui sont vraiment, vraiment toxiques.
Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, quand on fait tout ce travail sur soi-même et qu'au final, on n'est plus tellement dans le masque social et qu'on est aligné en fait, entre ce qu'on est à l'intérieur et l'image qu'on donne à l'extérieur, bah, tout à coup, on attire des gens très différents. Et on n'attire plus du tout les gens qui sont toxiques. Donc moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai que des gens ultra positifs autour de moi. Pas parce que je les recherche spécialement, mais parce que finalement, ils viennent à moi. Donc ce premier travail, il est à faire sur nous-mêmes.
Et on se rejoint complètement. Hein. C'est pénible, ouais. Mais on se rejoint complètement.
Moi, ça me plaît bien.
Non, mais...
Vous êtes heureux.
On est totalement d'accord là-dessus.
Mais par contre, vous critiquez une certaine mode à la recherche effrénée du bonheur, les stages en entreprise, les stages de bien-être, tout
c'est
ça.
C'est pas tant les stages, c'est simplement, j'ai assisté à des... Mais franchement, j'invente pas grand-chose dans les bouquins. J'ai assisté à des trucs absolument vraisemblables. J'ai vu des salariés qu'on oblige à mettre en maillot de bain, avec une ceinture, enfin une bouée absolument ridicule, et on leur demande d'être compète dans un château et machin. Et franchement, moi j'ai vu des femmes en pleurs. Je dis, mais pourquoi on veut m'obliger? Et je les comprends, mais de quel droit? Et si elles ne le faisaient pas, elles se sentaient rejetées par le groupe. Et c'était le cas, à part deux, trois âmes intelligentes qui disaient, mais pourquoi on l'oblige? Enfin, on a tous un rapport particulier à notre corps. On n'a pas forcément, c'est pas un hasard si on est habillé. Bon, ça, c'est des choses qui m'ont... mais vraiment insupporté. C'était au nom de la cohésion de l'équipe. On peut faire de la cohésion d'équipe sans avoir besoin de se mettre en maillot de bain. Mais c'est ça, voilà, c'est ça, moi, c'est toutes ces... Tous ces pour moi, c'est des
tout
dérapages.
Le décorum, quoi, en fait.
Voilà, c'est ça qui m'agace profondément. Et je pense qu'en plus, il ne faut pas passer à côté des fondamentaux. C'est la reconnaissance du boulot, de la personne, dans le travail, la reconnaissance également par la rétribution, ce qui me semble quand même extrêmement important.
On est d'accord.
Et donc, on peut faire tous les habillages qu'on veut, parler de cohérence, obliger les gens à sauter à l'élastique, et celui qui refuse passe pour un cake. Enfin, c'est quand même des choses qui me semblent un peu bizarres.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi une certaine forme de... On veut vendre, donc on invente des concepts, on va créer des choses qui...
Il y a des effets
forcément...
de mode, on est d'accord.
Ouais, il y a beaucoup de marketing.
Je travaille à Courrier Cadre, enfin bon, et plusieurs sites comme ça sur le management, tout ça. Bon. C'est vrai qu'il y a des effets de mode. Donc, et puis comme, c'est un peu comme les journalistes, ils ont très peu d'imagination les trois quarts du temps. Donc ils regardent ce que dit le petit camarade, de quoi on parle en ce moment, et puis ils vont se précipiter, ils vont faire venir les mêmes personnes sur les plateaux. Parce que
tout le monde va faire le buzz sur les mêmes sujets.
On est d'accord, les mêmes sujets, les mêmes invités, les mêmes... Enfin bon, c'est assez triste dans l'ensemble. Mais c'est un peu ça. Mais c'est un travers qu'on ne retrouve pas que chez les journalistes. Le manque d'imagination et de se dire, mais on pourrait peut-être faire autre chose, revenir à des fondamentaux. Là, en ce moment, l'entreprise découvre que la richesse humaine est importante. Dingue, hein, non?
C'est dingue.
Étonnant.
Oui, puis après, ils essayent de remarketer des choses. Voilà, marketer l'optimisme, pour moi, c'est impossible parce qu'en fait, c'est juste énoncer des vérités toutes simples. C'est un peu comme un peu des petites recettes de grand-mère dont on aurait tous besoin dès le départ. Moi, je me suis rendu compte que au final, bah, on est tous balancés sur terre. Alors, hop, vas-y, maintenant, joue. Hein. Ah, mais j'ai pas le mode d'emploi. En plus, on nous donne un mauvais mode d'emploi au départ. Et en fait, quand on peut, petit à petit, on apprend quelles sont les bonnes armes et qu'on apprend comment les utiliser, c'est ce que j'ai essayé de donner dans mon livre, c'est une sorte de trousse à outils, eh bien, ben, on avance beaucoup mieux et beaucoup plus sereinement dans la vie, mais ça rejoint en fait des valeurs humaines et humanistes.
Mais c'est une valeur de bienveillance. Enfin, pour moi, hein, c'est, enfin, je suppose que vous avez voyagé, enfin, c'est frappant dans d'autres pays, la bienveillance à l'école. J'insiste là-dessus, mais c'est la bienveillance. C'est-à-dire que un gamin, il ne s'agit pas, dès qu'il fait le moindre truc, de dire c'est extraordinaire, mais entre ça et il est vraiment nul, peut mieux faire en permanence sur les bulletins, ouais. C'est quand même une spécialité française, elle peut mieux faire tout le temps. Alors, c'est, bien sûr, on peut toujours mieux faire, mais chacun a ses propres limites.
Et puis en France, on adore formater.
Mais exactement.
C'est terrible.
Et c'est avec.
On est très exigeant.
Oui, et puis c'est la vieille histoire de ce pays littéraire. Enfin, c'est.
Oui, puis c'est la pensée unique, quoi. Voilà. C'est-à-dire que si tu penses différemment, bah, on te met de côté, ou on te juge, ou ça va pas, ou voilà.
Et ce manque de bienveillance, je pense qu'il plombe, mais qu'il plombe grave un pays. Mmh. C'est hyper important d'être bienveillant déjà avec ses enfants. Ça n'empêche pas l'éducation.
Mais justement, vous n'êtes pas vraiment bienveillant dans vos scénettes, vous critiquez, vous.
Mais moi, ce n'est pas mon boulot d'être bienveillant. Moi, sinon, je ne sais pas, je serais moine, je ne sais pas, rabbin, mais certainement pas. Mon boulot n'est pas celui-là. C'est vraiment de.
C'est une forme de bienveillance aussi, ce que vous faites, d'essayer
moi,
de ramener.
Moi, je tends un miroir. Voilà. Je tends un miroir. Alors, je sais que l'impact du dessin, il a un truc formidable dans l'entreprise, par exemple. C'est que les gens, quand je fais du dessin en direct, même si je n'ai pas travaillé pendant 10 ans avec une boîte et que je retravaille avec eux, les gens viennent me voir en me disant « Mais si vous aviez sorti tel dessin ?» Ils s'en souviennent, ils mémorisent. Et du coup, celui que j'ai dénoncé dans son comportement, c'est évidemment pas nominatif, évidemment, au moment où il va agir d'une certaine manière, va se rappeler du dessin. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire que, en fait,
vous
il va pas
les
le faire.
Choses.
Ouais, j'ai fait traiter énormément de l'égalité pro, de choses comme ça. La personne moyenne, je ne vais même pas dire le mauvais bougre. Simplement, il a pris des habitudes. Il est complètement gonflé dans ses certitudes et ses âneries. Il va reproduire sans même s'interroger. Bon. Et puis, à un moment, il passe pour un imbécile parce qu'il se rappelle du dessin. Donc, il ne va pas oser le faire.
La critique positive, c'est important. Hein. Moi, je trouve qu'on a évolué les choses.
Mais bien sûr, bien sûr.
Alors, on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie tous les deux. Vous avez été, géniaux. Voilà.
Ah, mais merci. On est exceptionnels. C'est ce qu'on se disait avant d'arriver.
Il faut être positif. Vous êtes exceptionnels, ouais, effectivement.
Exceptionnel.
Merci à vous deux.
Est-ce que je peux terminer sur une citation?
Allez-y.
Une citation que j'aime bien de Benjamin Button qui dit « Il n'est jamais trop tard pour être ce que tu as envie d'être. J'espère que tu seras fier de ta vie et que si ça n'est pas le cas, tu auras le courage de tout recommencer. »
Merci Christelle Crenier. Je rappelle que vous sortez Le pouvoir de l'optimisme aux éditions Idéo. Et puis merci Antoine Chéreau. Vous, c'est Alors Heureux, la BD aux éditions Pixel Fever. Merci à vous deux.
Merci, bonne journée.
Vivre FM, podcast.